toujours debout.
Une église qui vit l'évangile, manifeste l'évangile. J'aimerais qu'on commence par faire la lecture du chapitre Dieu en entier. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps et séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Voilà la parole de Dieu. On a déjà dit que cette église de Thessalonique est remarquable à bien des égards, notamment par les qualités qu'elle a pu développer au fil des années. Elle a fait preuve de beaucoup de maturité, de beaucoup de compréhension de l'évangile, et pourtant l'apôtre Paul n'est resté dans cette église que quelques semaines, peut-être 2-3 mois maximum. Mais déjà on trouve dans cette église une maturité, une beauté, une grandeur. L'apôtre et ses compagnons d'œuvre venaient de Philippe. Et à Philippe, ils avaient été emprisonnés, ils avaient connu toutes sortes de souffrances, mais l'église de Philippe avait vu le jour. Et puis, quelque temps plus tard, ils sont partis sur Thessalonique, et à Thessalonique, ils ont prêché les samedis dans la synagogue. Il y a eu plusieurs qui se sont convertis à Jésus-Christ, et puis il y a eu une révolte dans la ville, et ils ont dû quitter la ville précipitamment et partir sur Bérée. Ça, c'était lors du deuxième voyage missionnaire. Mais les Thessaloniciens ont appris rapidement à vivre selon l'Évangile et à se diriger d'après la parole, de sorte que Paul peut dire d'eux au verset 14, « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. » Vous ressemblez aux frères qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, les tout premiers chrétiens, vous leur ressemblez déjà. Et j'aime ce témoignage que Paul rend et j'aimerais pouvoir dire la même chose et je suis encouragé par l'Église ici, par la conformité, son désir de ressembler aux chrétiens de la première heure. Au verset 19 et 20, il dit « Vous êtes notre gloire, vous êtes notre joie ». Et c'est ce que, avec Samuel et les frères du conseil, on peut dire aussi, vous êtes notre joie. Ils ont appris en observant le modèle qui leur était donné par les frères qui leur ont annoncé l'évangile de Dieu. J'aime l'expression l'évangile de Dieu, elle revient souvent dans ce chapitre 2, à trois reprises. En réalité, tout enseignement du Nouveau Testament est relié à l'Évangile d'une manière ou d'une autre. Et quand l'apôtre Paul y parle de l'Évangile de Dieu, il parle de toute la pensée qui amène un chrétien, un homme, un pécheur au salut jusqu'à la conformité en Jésus-Christ. Il a en tête l'élection éternelle, il a la justification, il a en tête toute la période de sanctification de la vie chrétienne jusqu'à la glorification, à la résurrection. Des croyants. Tout ça, c'est contenu dans sa pensée quand il prêche, quand il annonce l'Évangile. Je crois que cette Église a pu manifester ce caractère et ses qualités à cause de la direction réussie. On avait vu la semaine dernière l'implantation réussie. On voit cette semaine la direction réussie. La direction, c'est-à-dire la manière dont ils ont été guidés dans les premières semaines de leur vie de chrétien. Et on verra ce matin, une direction réussie, elle est réussie par la pluralité de ses responsables. On verra ensuite qu'elle est réussie par la parole de Dieu et enfin par l'amour. Voyons, si vous voulez bien, tout d'abord, une direction réussie par la pluralité des responsables. En fait, dans cette épître, elle est attribuée à l'apôtre Paul. Il est l'unique auteur inspiré de cette lettre. Mais tous les pronoms personnels sont à la première personne du pluriel. Il dit « nous »,« notre »,« nous », et ça plus d'une trentaine de fois dans le chapitre 2. Et donc, c'est cette première personne du pluriel renvoie aux trois co-signataires de l'épître que l'on trouve au verset 1 du premier chapitre, Paul, Sylvain ou Silas et Timothée. Et en fait, ce sont ces trois hommes qui sont venus et qui ont apporté l'Évangile. Et je pense que c'est très important parce que les Thessaloniciens ont observé et puis ils les ont écoutés. Et puis, il y avait une cohérence entre ce qu'eux vivaient et ce qu'ils entendaient, ce qu'ils leur prêchaient. Sans cesse, il les prend à témoin. Il dit, vous savez, vous êtes témoins, vous vous rappelez. Et donc, il peut parler comme cela parce qu'ils ont vécu d'une manière authentique, d'une manière qui est en conformité avec leur enseignement. Ils ont fonctionné à trois devant les Thessaloniciens, comme une mini-église en fait. Les Thessaloniciens savent comment ils avaient souffert ensemble. Ensemble, ils avaient été emprisonnés avec Paul et Silas à Philippe. Ils ont été frappés, emprisonnés, et puis ils ont retrouvé de l'assurance ensemble. Ensemble, ils se sont encouragés. On y retourne, on repart, on poursuit le combat, on poursuit le travail à Thessalonique et puis à Bérée. Et puis, ils ont combattu à nouveau ensemble pour l'annonce de l'Évangile. Et quand, dans la fin de notre chapitre 2, on voit toutes les difficultés, toute l'opposition que les prédicateurs de l'Évangile ont rencontré au fil des temps. Ils peuvent parler comme un seul homme. Ils parlent de notre Évangile. c'est-à-dire tout notre enseignement, tout ce qu'on a pu vous annoncer. Il dit notre prédication, notre vive affection pour vous, notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire. Parfois, l'un ou l'autre d'entre vous vient me rappeler des paroles que j'ai dites dans un message. Ça fait plaisir de savoir que quelques-uns écoutent et puis retiennent. Voilà. Mais parfois, vous venez me rappeler des paroles que je n'ai pas prononcées, mais que Samuel a prononcées. Parfois je corrige, parfois je ne corrige pas. Mais ce qui me fait plaisir là-dedans, c'est que ça se mélange dans vos têtes, dans le sens où c'est notre prédication, notre message. Et ça, c'est possible uniquement si le message, ce n'est pas celui de Sam, ou celui de Vincent, ou celui d'un autre prédicateur, mais si c'est l'Évangile qui est prêché, si c'est l'Évangile de Dieu, alors qu'il soit dans ma bouche ou dans la bouche d'un autre, aucun problème, vous pourrez confondre. C'est notre message. Ils ont vu comment ils s'aimaient, comment ils s'encourageaient, se complétaient, se soutenaient. Et en les observant, ils ont vu comment chacun devait le faire vis-à-vis de son frère à Thessalonique. Ils ont observé, ils ont dit, mais nous on doit faire pareil, ils font ça eux les frères, nous on devons faire ça également. Je crois à la pluralité des responsables pour une direction réussie dans l'Église, parce que c'est dans la pluralité que l'on peut montrer ce que doivent être les relations entre frères et sœurs dans l'Église. Si j'aime ma femme, on dira, c'est normal, c'est sa femme. Si je l'honore, on dira, c'est normal, c'est sa femme. Mais si j'aime mon compagnon d'œuvre, et l'honore, et l'encourage, et qu'il fait de même, si nous nous soumettons les uns aux autres, alors toute l'assemblée sait quel genre de relation on doit avoir les uns vis-à-vis des autres, et pas seulement envers nos épouses. Les Thessaloniciens ont observé, ils ont vu Paul, Silas, Timothée et tous les autres compagnons d'œuvre unis dans leur message, unis dans leur prière, soumis les uns aux autres dans l'amour. Et en les observant, ils ont compris comment ils devaient eux-mêmes marcher d'une manière digne de Dieu. Je suis convaincu que la pluralité des responsables dans l'œuvre de Dieu est une condition à une direction réussie, parce qu'en fait, ce qui manque à l'un, l'autre l'a reçu et le met au service de l'Église, de sorte que la direction s'enrichit considérablement. Les proverbes nous disent, dans le proverbe 15, verset 22, « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Quand le conseil se réunit, on est 8. Actuellement, et avec des personnalités différentes, avec des compétences différentes, avec des caractères différents. Et ça, croyez-moi, ça enrichit considérablement la direction de l'Église. Et ce qui manque à l'un, l'autre l'a reçu. Et donc, l'Église est enrichie d'une telle assemblée. On a besoin des autres pour parfaire son jugement. On réfléchit, on prie à une situation, et puis on réalise. Quelqu'un réalise, oui, mais il y a peut-être tel aspect de sa vie. Ah oui, on n'avait pas pensé à ça. Les autres n'avaient pas pensé. Et puis on prend en compte cette perspective qui est là. Alors, le jugement est plus juste. Les décisions sont plus équilibrées. Et donc, l'Assemblée se trouve plus disposé à appuyer les décisions qui sont prises, facilitant ainsi l'unité et permettant aux responsables d'être moins exposés aussi aux critiques. La pluralité donne également au groupe de responsables des racines plus profondes. Elle favorise la permanence et la continuité. Si un des responsables manque à l'appel, s'il part auprès du Seigneur ou qu'il quitte la région, ça ne bouleverse pas, ça ne déstabilise pas complètement l'œuvre. Parce que d'autres sont là. Aussi, la pluralité encourage l'Église à assumer plus de responsabilités concernant la croissance spirituelle de ses membres, parce que tous pensent, moi aussi, je dois pouvoir un jour prendre la place de ces frères plus avancés que moi dans la foi. Je dois un jour pouvoir porter ma charge, ma part, et je me prépare dans cette perspective-là. Et c'est ça qui fait que l'Église est enrichie et elle est tirée vers le haut dans la connaissance, mais aussi dans la mise en pratique de l'Évangile en son sein. Cette pluralité, elle est devenue effective, elle est devenue évidente pour les Thessaloniciens, de sorte qu'ils ont mis en place une direction collégiale. On voit ça au chapitre 5, verset 12, il est dit, c'est Paul qui dit ça, il dit « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. » Paul, Timothée, Silas sont partis, ils ont poursuivi leur travail, mais les frères qui ont pris en charge la responsabilité de l'œuvre ont mis en place une direction collégiale, une pluralité, un conseil d'anciens, de sorte qu'ils ont pu travailler ensemble dans cette œuvre, et que Paul peut leur écrire et écrire à tous les frères de les honorer, de l'avoir de la considération pour eux. Au verset 13, il dit encore « Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. » J'aime ça. Aimez vos conseils, votre conseil, aimez vos anciens, aimez vos responsables. Vous allez voir combien ils vont vous le rendre dans le service qu'ils offrent à l'Église. Deuxième pensée pour réussir la direction de l'Église, une direction par la parole de Dieu. Et ça, on trouve ça, autant le premier point, on le trouvait dans tout le chapitre, ici, le deuxième point, on le trouve dans les chapitres, dans les versets 1 à 6 et puis au verset 13 notamment. La direction est réussie lorsqu'elle se fait conformément à la parole de Dieu. Le serviteur de Dieu prêche le message vrai et entier que Dieu a révélé dans sa parole et non quelque autre message. C'est pourquoi à l'EBTM, on s'efforce de prêcher d'une manière textuelle suivie. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qu'on fait de semaine en semaine. On prend un livre et puis la semaine dernière, on a étudié le chapitre 1 de l'Épître aux Thessaloniciens et la semaine prochaine, on étudiera le chapitre 3. Il n'y a pas vraiment de surprise, c'est vrai, mais au moins, vous avez une vue globale, une vue d'ensemble de l'Épître. Les choses, et vous voyez comment toutes les choses sont reliées entre elles. Et puis aussi, ça nous oblige, nous, à prêcher non pas ce que l'on aime prêcher, mais à prêcher ce que la Bible prêche, ce que la Bible enseigne. Et c'est pour ça que c'est tellement important, cette méthode de prédication. On s'efforce de prêcher de manière textuelle, c'est-à-dire qu'on veut se soumettre au texte pour annoncer ce que la parole de Dieu dit, et non le contraire, pour lui faire dire au texte ce que nous voulons. Regardez au verset 4, il est dit « Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. » Il est en train de dire, mais vous rendez compte ce que Dieu nous demande? Il dit, il nous a jugés dignes de prêcher sa parole. Vous pouvez imaginer un seul instant qu'on va essayer de prêcher autre chose? Il nous a jugés dignes de prêcher sa parole. Et en plus, Il dit encore, on ne cherche pas à plaire aux hommes, on cherche à plaire à Dieu qui nous a confié sa parole. Et de plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. C'est-à-dire, il sait si on prêche sa parole ou si on commence à divaguer dans nos propres désirs. Hein? Il le fait pour l'amour de la vérité et non pour sa popularité personnelle. Et quand vient l'opposition, il se confie en la puissance de Dieu et il continue à obéir à son appel. Au verset 3, il dit « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. » Il dit « Ça ne repose pas sur l'erreur. » Paul et ses compagnons, ils encouragent chacun, et nous le faisons aussi, à avoir la Bible entre les mains. Venez avec votre Bible dimanche, lisez-la. Vérifiez ce que l'on dit. Comme les Béréens qui vérifiaient chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur disait était exact. Quand l'apôtre Paul annonce l'évangile, ou il rappelle l'évangile en 1 Corinthiens 15, dans les premiers versets, il dit ceci. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Patrick a écrit un chant pour les enfants, selon les Écritures, et pendant tout le chant, il répète, selon les Écritures, et il rappelle tout l'Évangile, selon les Écritures. C'est-à-dire, c'est pas basé sur des erreurs, c'est basé sur la parole de Dieu, c'est basé sur tout le fondement des Écritures. C'est pas basé sur des motifs impurs. À l'époque de l'apôtre Paul, il y avait tant de temples idolâtres dans lesquels la première expérience religieuse était des rapports sexuels avec une prostituée du temple. L'idée, c'était qu'en s'unissant aux prostituées du temple, les hommes parvenaient à une union mystique ou métaphysique avec les dieux. Imaginez un peu le... Alors les leaders impies, sans scrupules, cherchaient donc à convertir des gens dans le but d'avoir des rapports sexuels avec eux. Les mobiles des gourous aujourd'hui n'ont pas vraiment changé. Et si ce n'est pas le sexe, c'est l'argent ou l'orgueil. Mais il n'y a rien de tout ça dans les motivations de la prédication de l'évangile chez Paul. C'est pour plaire. Pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. On peut jouer une comédie devant les hommes, mais pas devant Dieu. Et Dieu, il sonde nos cœurs. Et le but de la prédication de l'Évangile, c'est le salut des âmes et leur transformation par la foi en Jésus-Christ, ce qui glorifie Dieu et Dieu seul. Et puis leur prédication ne reposait pas non plus sur la fraude. J'aime le mot grec, c'est dolos, et ça signifie hameçon. Vous voyez un peu la chose? Pas une fraude, pas un hameçon. Il n'y a pas un truc qui, par lequel on a piégé les gens. Il n'y a pas de ruse. Il n'y a pas de forme de tromperie. Il n'y a pas de mise en scène. Il n'y a pas de trucage, de manipulation dans la prédication de Paul et de ses compagnons. On a dénoncé ces dernières semaines, en nous appuyant sur le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, on a dénoncé l'évangile de prospérité avec ses fraudes, avec le mobile de la cupidité, avec des prophéties qui n'en sont pas, ou avec des guérisons qui sont truquées. Ça, c'est de l'hameçon, il y a un piège là, on a truqué la chose. Mais il n'y a pas besoin de ces artifices quand on prêche la parole de Dieu. Elle est puissante par elle-même, quand elle est prêchée fidèlement, elle produit dans les cœurs de ceux qui croient des résultats abondants. L'apôtre Paul a rappelé au chapitre 1, verset 9, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Vous voyez la transformation de ces idolâtres. Ils ont été changés Tout ça simplement par la prédication de l'apôtre Paul. Paul ne s'attribue pas à lui les résultats de la parole de Dieu. Mais voilà, c'est la parole qui a produit ces choses, par la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu est infiniment supérieure aux opinions des hommes. Les Grecs, en particulier les Thessaloniciens, étaient habitués à entendre des discours de la philosophie, de la rhétorique, de la sagesse humaine. Mais quand ils ont entendu la prédication de Paul et de ses compagnons, ils n'ont pas reçu cette parole comme venant des hommes. Ils n'ont pas reçu cette parole comme étant un nouveau courant philosophique. Mais ils ont reçu cette parole comme venant de Dieu. Ça, c'est le verset 13 qui nous dit ça. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit puissamment en vous qui croyez. Paul déclare aux Galates, chapitre 1, versets 11 et 12, « Frères, je vous le déclare, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » La parole agit constamment dans les cœurs de ceux qui croient. Et c'est pour ça qu'il nous faut prêcher fidèlement cette parole. La parole agit, elle sauve. Hein, je pense à ce verset dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23. Il dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Voilà ce qui a pu amener les gens à la connaissance du salut en Jésus-Christ. Et puis, cette parole sanctifie. Jésus dit « Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. » Et puis, cette parole, elle nous fait croître en maturité. Toujours dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, il est dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Cette parole, elle nous affranchit. J'aimerais lire encore chapitre 8 de l'évangile de Jean, versets 31 et 32. Il est dit ici, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il y a une puissance libératrice dans les Écritures, dans le message de l'Évangile. Et c'est quand on médite cette parole que l'on vient à la victoire. Elle nous perfectionne. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli, propre à toute bonne œuvre. Et puis elle conseille... Le psalmiste, dans le psaume 119, dit « Tes préceptes sont mes conseillers. » Elle donne toute notre espérance. Elle nous assure le succès spirituel. Et c'est pourquoi une direction réussie repose sur la parole de Dieu. C'est elle qui peut changer les cœurs. Et les Thessaloniciens sont devenus les imitateurs des apôtres, c'est ce qui est dit au chapitre 1, au verset 6, mais aussi des croyants de Judée qui ont connu aussi beaucoup d'opposition, mais qui persévèrent parce qu'ils ont cru en la parole de Dieu. Et c'est cette parole qu'il sert sur leur cœur. Et puis enfin, la direction est réussie par l'amour. Pour une direction réussie, il ne faut pas simplement ou seulement la pluralité du conseil. Il ne faut pas seulement l'orthodoxie de la parole de Dieu, mais il faut aussi l'amour. Je pensais peut-être que le verset clé de ce chapitre 2, ce serait le verset 8, où Paul dit « Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. » C'est fort, hein? L'évangile de Dieu mais même leur propre vie. Les expressions qu'on trouve dans ces versets 7 à 12 sont parlantes, les expressions pleines de douceur. Il est dit aussi, de même qu'une nourrice prend tendre soin dans notre vive affection, exhortant, consolant, conjurant. Tout cela révèle le modèle de direction nécessaire à la santé d'une église. Elles sont toutes tirées des métaphores d'une mère et d'un père. Paul dit au verset 6, « Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. » C'est vrai, il est apôtre, pas par la volonté des hommes, mais par Dieu lui-même. Il aurait pu venir en disant, « Voilà, écoutez-moi maintenant, c'est comme ça. » Mais ce n'est pas comme ça qu'il est venu. Il est venu, mais nous sommes venus avec plein de douceur au milieu de vous. Plein de douceur. Ils ont choisi une autre attitude. Ils ont choisi de mettre ensemble la vérité de l'Évangile et puis l'amour que produit l'Évangile dans nos cœurs. En Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 15, Paul dit « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. La vérité sans l'amour fait souvent plus de mal que de bien. Et l'amour sans la vérité, est-ce encore de l'amour ? Il ne s'agit pas de jeter nos quatre vérités à la face des gens. Il nous faut transmettre. Et ça nécessite d'aimer les gens. Si on n'aime pas, les cœurs ne sont pas ouverts à recevoir la parole de Dieu. Il dit comme une mère, je vous ai aimé, je vous ai enseigné comme une mère, comme une nourrice. Verset 7 à 9. Le conducteur spirituel, il œuvre avec douceur, avec une affection profonde, avec l'amour sacrificiel d'une mère et le travail désintéressé d'une mère. Qu'est-ce qu'une mère ne fait pas pour ses enfants? Des tâches répétées, des nuits debout ou à côté de ses enfants pour pouvoir les soigner, pour pouvoir les encourager. Qu'est-ce que fait pas une mère pour que son enfant réussisse? Celle de mes enfants leur fait répéter les révisions du bac en ce moment. Patiemment. On imagine l'attitude de Paul, de Silas, de Timothée auprès des Thessaloniciens qui découvrent la foi en Christ. Ils les corrigent avec tendresse, ils les nourrissent avec soin, ils les protègent, ils veillent constamment sur eux comme sur des nouveau-nés en Christ, comme une mère qui va allaiter son enfant, qui va veiller nuit et jour sur lui, qui le lave, qui l'habille, qui l'encourage. Et s'il est plus fragile que les autres, s'il a un handicap, alors elle redouble de tendresse, de patience. Elle se sacrifie, elle se donne elle-même. Et ici, Paul rappelle qu'il n'a pas été à charge des Thessaloniciens. Il dit qu'il a travaillé jour et nuit pour n'être à la charge d'aucun de vous. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, on apprend au début du chapitre 8, que les Macédoniens, notamment les Thessaloniciens, c'était des pauvres, des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Mais ils ont malgré tout donné pour soutenir les églises de Judée. Mais Paul ne voulait pas peser sur cette église matériellement pour ne pas être un poids sur eux. Paul va travailler comme faiseur de tente pour ne pas peser sur eux pendant son séjour. Et puis il dit, comme un père. Ça, c'est dans les versets 10 à 12. Il décrit son ministère, son travail auprès d'eux comme un père. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Paul, il les prend à témoin. Et comme tout leader, la responsabilité d'un père est de diriger par l'exemple. Et là, c'est fort parce qu'il les prend à témoin et dit « Vous savez comment on a été au milieu de vous. » Et puis Dieu le sait. On a été comme des pères pour vous. Avec une conduite sainte, juste et irréprochable. Je suis allé à l'école aussi, à l'école jusqu'au bac, et puis après dans des études supérieures, et puis après j'ai repris des études pour le ministère pastoral. Je pense avoir pas été un très bon élève, mais les choses dont j'ai besoin tous les jours, c'est mon père qui me les a enseignées. Mon père m'a enseigné la crainte de Dieu. Et c'est par elle que le Seigneur m'a attiré à la croix pour recevoir le pardon et la vie éternelle. Soit ce qui m'est arrivé de meilleur. Mon père m'a appris à être économe et généreux. Et tous les jours, je vois la provision de Dieu abonder dans ma vie et dans celle de ma famille. Et même dans l'église sur laquelle le Seigneur m'a établi par sa grâce. Mon père m'a appris à aimer le travail et l'effort. Et tous les jours, j'en ai besoin. Mon père m'a appris le sens du devoir, de l'honneur, de la justice, de l'honnêteté. Tout ce qui est indispensable à un homme pour conduire ses pas dans un monde corrompu, parce qu'il a méprisé ses valeurs. Mon père m'a donné le modèle d'un homme fidèle à son épouse, d'un homme fidèle à ses convictions, à sa parole, à ses engagements. Je suis extrêmement redevable à mon père. Extrêmement. En plus, tout ce qu'il m'a enseigné, il me l'a enseigné malgré moi. Je n'ai pas eu de cours, mais je l'ai vu faire. Je l'ai juste observé et j'ai pu découvrir tout cela. Voyez-vous, l'exemple d'un père, c'est extraordinaire. C'est une richesse que tout le monde n'a pas. Mais le père n'est pas simplement un exemple, il est aussi un instructeur. Je dirais, ça parlera mieux à mes fils, le coach de ses enfants. Il est dit les exhortants. Le mot pour exhorter, c'est un mot magnifique, c'est parakaleo en grec. Ça signifie qui vient près d'eux. Vous voyez la chose? Un père, c'est quelqu'un qui vient près de ses enfants pour les exhorter. Parakletos, c'est un des titres de Jésus-Christ et du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas de père, souvenez-vous de ça. Vous n'avez pas pour autant, il ne vous manque pas le Parakletos. Vous avez celui qui vient près de vous. Jésus-Christ, et vous a laissé son esprit qui est l'autre consolateur, l'autre paraclétos. Un père est présent, il est disponible, il se tient aux côtés de ses enfants, sinon physiquement, en tout cas en pensée et en prière, dans les luttes de ses enfants. Il est dit ici, les consolants, c'est-à-dire il les réconforte dans les échecs ou dans les obstacles qu'ils peuvent rencontrer et vivre. Combien de fois un enfant a besoin d'être relevé? Il est tombé, il a échoué, il a raté. Si son père lui dit, mais tu vois rien, Non, c'est pas comme ça qu'on doit être. Il prend soin de lui, il le relève, il l'encourage. Et puis il dit ici, les conjurants. Ça aussi, c'est une expression très forte, c'est un avertissement plein d'amour et de sérieux à vivre d'une manière digne de l'évangile de Dieu. Conjurant, c'est ce que je fais à mon fils en ce moment. Je lui dis, mais travaille. Travaille, t'as plus qu'une semaine. Te laisse pas détourner, travaille. Parce que lundi prochain, il y a le jugement. C'est ça, conjurer, c'est avertir le danger qui vient. C'est avertir le jugement qui va frapper. Et c'est ça, conjurer, c'est plaider pour que la personne saisisse quelle est la manière de vivre digne de Dieu. Tout cela vise la maturité spirituelle. Et Paul n'avait pas autre chose en tête que la maturité spirituelle des chrétiens de Thessalonique. Quand les serviteurs du Seigneur dirigent avec cette douceur et cette application, alors l'Église s'épanouit et elle vit d'une manière qui honore Dieu, qui les a appelés à son royaume et à sa gloire éternelle. Pour réussir dans la direction de l'Église, il faut une pluralité, il faut la parole de Dieu prêchée, la soumission aux Écritures, et puis il faut l'amour. C'est valable pour toute direction. C'est valable pour notre propre famille. C'est valable pour l'Église. C'est valable pour toute situation. Pensez à ça, gardez ça en tête. Plusieurs, la parole de Dieu, la vérité, et puis l'amour. Mais quelqu'un dira, ah, moi, j'ai pas trouvé ça dans cette église. Pas aussi bien que j'espérais, en tout cas. Où les pasteurs qui sont là, ils ont montré des défaillances. Et si pour un peu, vous êtes là depuis quelque temps, vous les avez déjà bien remarqués. Peut-être quelqu'un dira, mais moi, j'ai pas eu de père. J'ai pas eu ce privilège-là. J'ai pas eu ce père dont j'avais tellement besoin. Vous avez un père. Vous avez un Père dans le ciel. Et le témoignage du Père dans le ciel est parfait. Il se révèle parfaitement à vous dans sa parole. De sorte que ce qui vous a manqué ici-bas, peut-être dans votre construction d'homme, de jeune homme, vous pouvez le trouver en lui. Il y a une direction plurielle, collégiale, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Fils est soumis au Père, l'Esprit est soumis au Fils. Ils s'aiment ardemment. Le Père dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a tout dans la Trinité, cette pluralité qui nous aide à comprendre comment est-ce qu'on peut fonctionner dans une famille, mais aussi dans une église. Jésus-Christ, il est l'incarnation de la parole. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Oui, vous avez la parole de Dieu sous vos yeux, ici écrite. Vous pouvez découvrir Jésus-Christ et l'aimer. Et puis cette parole a été faite chair et elle s'est donnée. Elle nous a aimés parfaitement. De sorte qu'on a un modèle parfait en Jésus-Christ de ce qu'est l'amour véritable et de comment est-ce que l'on doit aimer son frère, son prochain. Voyez-vous, prenez courage, quelles que soient vos lacunes, Dieu les connaît, et il vous montre qu'il ne vous a pas oublié et qu'il vous a tout donné pour réussir votre famille, pour réussir votre église, pour réussir vos relations. Vous avez sa parole, vous avez Jésus-Christ, vous avez le Père, vous avez l'Esprit Saint qui habite dans vos cœurs. Alors prenez courage, de sorte que un jour, on puisse dire avec tous les responsables de cette église et avec vous tous, n'êtes-vous pas notre couronne de gloire? N'êtes-vous pas notre joie le jour où devant le Seigneur, on se tiendra réunis, transformés à la ressemblance de Jésus-Christ? Amen. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de tout notre cœur parce que tu nous as laissé dans ta parole tout ce qui nous est nécessaire pour nous conduire ici-bas, pour réussir notre direction. Seigneur notre Dieu, nous te louons de tout notre cœur. Je veux le faire moi-même de tout mon cœur pour chacun de ces enfants ici rassemblés dans cette église. Merci pour la transformation que tu as opérée dans leur cœur à chacun par la parole de Dieu, par l'Esprit Saint que tu leur as laissé. Merci pour Jésus-Christ qui lui nous permet de saisir l'évangile de Dieu et la gloire à venir, le pardon dont nous avons besoin, la réconciliation avec toi et puis avec les hommes. Merci Seigneur de soutenir cette œuvre encore, de la guider dans les décisions importantes qu'elle a à prendre dans les prochains jours, prochaines semaines. Nous te demandons pour que tu œuvres avec puissance au milieu de nous, Seigneur, transformant nos vies, parce que nous recevons ta parole non comme la parole d'un homme, comme une philosophie humaine, mais comme elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en nous. Béni sois-tu par Jésus-Christ. Amen. Amen.